Depuis combien de temps sommes-nous sur cette île, Sawyer?
Qui peut dire? Peut-être des mois.
As-tu vu un bateau à l'horizon? Un avion passé? Des signaux? Non. Et tu sais pourquoi? Eh bien, c'est parce que nous sommes perdus. Sawyer, tu comprends ce que je te dis? Nous sommes perdus! Ah, je venais de gagner à la loterie et nous étions partis en voyage de noces avec ma merveilleuse femme. Et tout ce qu'il reste d'elle, c'est ce soulier noirci et cette rognure d'ongles.
Waouh, Jack, faut que je te dise que j'ai retrouvé un autre morceau de ta femme. Mais la bête immonde que personne ne voit jamais l'a emporté avec lui dans la forêt. Loin, dans un endroit où il n'y a aucune trace, une vieille grotte avec des gens qui ne sont pas censés être là. Car nous sommes perdus.
La souffrance ne cessera jamais. Tant que je n'aurai pas retrouvé cette partie de la femme que j'aime, je vais immédiatement me fabriquer une lance en bois aiguisé avec mon couteau et partir à la recherche de cette bête que l'on ne voit jamais, mais qui fait un méchant gros bruit avec la trame sonore. Je la sens, elle est proche.
Souviens-toi que la bête pourrait aussi être une représentation de ton inconscient, petit vermisseau.
Mais oui, je n'ai qu'à brancher sur moi cette lampe au sodium, retrouvée sur l'épave de notre avion, pour y voir mieux dans le fond de mon âme.
Oh Jack, non, ne pars pas. Nous sommes avec toi. Tu peux compter sur nous. Je l'ai amené Bobby, Charlie, Kevin et Saddam, mais je pense qu'il y a un traître parmi nous.
Ralph, arrête de jouer de cette crécelle. Ça met les nerfs de tout le monde en boule.
Josiane, il est temps pour toi de savoir la vérité sur notre fils. C'est une fille mort-née.
Jack, regarde ce que j'ai trouvé sur la plage. Une carte avec une boussole. Et sur cette carte, il est marqué PM.
Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?
Pustule macabre.
Petite moule.
Papy Mamboule.
Non, ça y est, j'ai compris. Ça veut dire puissance maximale.
Oh. Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Et oui, bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de Puissance Maximale. Vous avez pu voir que nous avons renoué avec notre vieille tradition de vous concocter une petite série radiophonique pour débuter cette émission-là. Aujourd'hui, on était sur une île perdue en compagnie de notre équipe, de personnes perdues. Aujourd'hui, qui a évidemment concocté quelque chose d'extraordinaire pour toute la semaine et... J'en profite pour vous souhaiter à tous, bonjour à tous d'abord.
Bonjour.
De vous souhaiter une excellente, c'est le temps des fêtes, c'est le temps de Pâques. C'est Pâques qui s'en vient là, puis qui est en plein en train de se faire en ce moment. Cette semaine, À Puissance Maximale, eh bien, nous avons décidé non seulement de faire l'émission debout, ce qui est vraiment une toute une nouveauté. D'ailleurs, je suis sûr que les auditeurs peuvent appréhender la différence. Hein. On sent vraiment qu'il y a comme un élan debout là. Hein. Vous le sentez vous aussi ?
On respire très bien.
C'est ça, exactement. Puis ben, aujourd'hui, cette semaine, je vous laisse peut-être présenter toute l'actualité que vous allez nous présenter ou toutes les chroniques que vous allez nous présenter en commençant par Vincent Langlois. Bonjour Vincent.
Salut Sébastien. Alors oui, aujourd'hui, moi, ce que je vais parler du jeu Lost sur PS3, mais aussi en vente sur Xbox 360 et sur PC.
Lost, qui nous a d'ailleurs inspiré le thème de la journée d'aujourd'hui.
Merci
beaucoup, Vincent. Et ensuite, on passe à David Claveau. Bonjour,
bonjour,
David.
Bonjour. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler des Serious Games, un nouveau créneau de marché, parce que le jeu, c'est aussi sérieux.
Le jeu, c'est sérieux, ça, j'y crois tellement pas que, à mon avis, ça va être difficile de nous le prouver.
Ah ben, j'espère y parvenir.
Ensuite, nous avons une toute nouvelle chroniqueuse avec nous. Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter?
Oui, moi, c'est Marc-Claude Dorval. Je vais vous parler du jeu Cosa Nostra. En fait, on a reçu la semaine passée les deux créateurs de jeux et on m'a demandé de l'évaluer. Donc, je suis là pour ça.
Et ça n'a pas dû être facile, hein, jouer toute la semaine pour une émission de radio. Mais Dieu, que les choses sont difficiles.
En pleine semaine de relâche, en plus, on avait en masse le temps.
Il a fallu que tu convainques Kevin, qui est juste à côté de toi, de jouer avec toi. Mais Kevin a aussi une autre chronique pour nous.
Oui, moi, je suis en train de mettre en branle un projet complètement débile et j'ai besoin du Québec entier pour m'aider à y parvenir.
Enfin, des choses qui ont de l'allure et qui prennent des proportions de grandeur. J'adore ça. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve pour parler de tout ça dans quelques minutes. D'ici là, bien moi, cette semaine, j'étais jeudi dernier. Je suis allé à l'IGDA de Québec, c'est-à-dire c'est se situer en plein milieu, en plein centre de Québec, à l'ENAP, en fait, pour être plus précis. Puis, il y avait là-bas notre ami Patrice Desilets. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Moi, je vous avouerai que je l'avais rencontré à Arcadia. Il y avait une longue file de personnes qui attendaient pour se faire signer le poster de Assassin's Creed, le dernier petit nouveau-né de Ubisoft Montréal, dont il est d'ailleurs le directeur artistique. Excusez-moi. Il nous faisait une petite présentation en fait, de ce à quoi ça peut ressembler de l'intérieur, la façon de faire un jeu. Puis justement, il nous parlait d'Assassin's Creed. Puis on en a profité, évidemment, pour faire une petite entrevue que je vous soumets immédiatement. Moi, je vous avouerai que son background est vraiment très intéressant. Le personnage en tant que tel est vraiment passionnant. Il est jeune pour commencer. Il est sympathique, vraiment sympathique. C'est un artiste dans l'âme. Il a fait tout un background en cinématographie. Et en plus, il a fait énormément d'improvisation. Puis cet aspect-là, moi, ça m'a inspiré beaucoup de questions. Puis je vous laisse avec mon entrevue immédiatement. Après, on se retrouve évidemment pour parler de toutes les autres chroniques.
Première question pour toi. Moi, je t'avoue que j'ai regardé ça. Là, je me dis... Es-tu vraiment un gars des jeux vidéo ou t'es plutôt un gars du cinéma?
C'est sûr que mon background vient du cinéma, mais après 11 ans en jeu, je pense que je suis un gars des jeux vidéo, mais je suis pas un classique. Je suis pas un gars classique de jeux vidéo, mais je dirais que j'ai amené ma culture et ma sensibilité du théâtre et du cinéma dans le jeu vidéo. Mais vraiment, là, j'ai plus étudié en jeu vidéo qu'en cinéma. Et ma manière de m'exprimer maintenant, c'est avec le jeu vidéo. J'ai juste pris un médium.
Mais ça se ressent quand même là, quand on te regarde, là, quand on regarde le type de jeu que tu fais. C'est sûr qu'il y a cette patte-là, il y a cette espèce de volonté d'avoir une caméra omniprésente.
Ah, ben oui, c'est sûr que mes études ont permis, et puis ensuite ma culture de cinéma m'a permis d'utiliser... Certaines grammaires cinématographiques à l'intérieur des jeux vidéo. Mais souvent, on me demande est-ce que tu auras envie de faire un film? Puis non. C'est ça qui est spécial. J'ai pas envie de faire du cinéma. J'ai envie d'utiliser mes connaissances du cinéma à l'intérieur de jeux vidéo. Tu sais, il y en a des jeux qui sont beaucoup plus cinématographiques, à tout le moins, où ils vont avoir 20 minutes, 25 minutes, 30 des fois même de cinématique. Et là, tu regardes le film, puis après, tu te mets à jouer. Moi, c'est vraiment à l'intérieur du jeu que j'utilise des angles de vue, des plans de caméra. Mais au final, tu es toujours en train de jouer. Et moi, je trouve ça plus intéressant, ça, que de faire un film entre deux séquences de jeu.
Ça veut donc dire que toute la partie créativité arrive à s'exprimer à travers les jeux vidéo pour toi?
Ah, tout à fait. Même que il y a un truc qui n'existe que dans le jeu vidéo, c'est vraiment la partie interactive. C'est-à-dire qu'en cinéma, en peinture, en musique, peut-être un peu moins en musique, là, mais il y a toujours, je donne une œuvre et toi, spectateur, tu dois la recevoir et c'est fini, quoi, puis il n'y a plus de dialogue. Alors qu'un jeu vidéo, c'est un dialogue constant entre certaines notions qui viennent de moi et mon équipe et comment le joueur les utilise, comment il utilise les outils et tout ça. Donc, tu ne peux pas ne pas penser à l'autre et c'est un dialogue plutôt qu'un monologue. Et je m'exprime mieux là-dedans maintenant, je crois, et je trouve ça plus intéressant. Et j'ai déjà dit aussi, je me souviens plus à qui, peu importe, dans l'entrevue, ce qui est quand même génial pour moi qui viens du Québec et tout ça, c'est que ça m'a permis, ce médium-là, de recréer les croisades de la même manière que Ridley Scott. Et lui, ça lui a coûté des millions et tout ça, puis il a fait un 2h30, 3h avec ça, puis moi, j'en ai fait un 20h.
Ça t'a coûté des... Pas toi, mais ça t'a coûté des...
Ça a coûté des millions, c'est clair. C'est pas tous les... Mais tu pourrais, t'aurais pu faire Assassin en flash, et à quelque part... Tu reprends aussi, tu peux recréer des univers et c'est le jeu vidéo permet ça. Il y a quand même tout un marché pour des petits jeux aussi. Moi, j'ai fait un jeu épique et tout. Il n'y a rien qui m'empêcherait de revenir à quelque chose de plus intime. Ça serait un peu un de mes fantasmes, c'est de faire un huis clos vraiment en jeu vidéo ou un jeu à beaucoup moins de personnages. Je l'ai fait un peu avec Sands of Time, mais plus... crédible, réaliste dans la vie d'aujourd'hui. Ça serait quelque chose que j'aimerais faire un jour. Pas juste dans les pics à KPDP. Ma carrière m'a amené là, mais je n'étais pas prédestiné à faire ça nécessairement. Je me trouve quand même chanceux, mais c'était pas ma volonté au départ.
Dis-moi, je vais peut-être te poser la question à l'inverse. Alors, est-ce que finalement, un jour, tu vas t'écarter du cinéma et puis peut-être complètement changer... la game par rapport aux jeux vidéo pour trouver une nouvelle avenue?
Ouais, bonne question. À revenir avec un vrai jeu, là. Je sais pas, parce que c'est ma manière de concevoir les jeux. C'est comme ça qu'à la base, j'ai une vision. Hein, parce que c'est vraiment ça. Moi, c'est ma façon de travailler. Il y en a qui sont beaucoup plus cartésiens puis qui vont y aller avec des règles à la base. Moi, j'ai une vision un peu floue qui, oui, va être cinématographique, visuellement riche, mais j'ai aussi une vision d'une interactivité. C'est-à-dire que, par exemple, dans Assassin, une des premières choses que j'ai vues, c'est ce concept de marionnette, que tu contrôles le personnage comme une marionnette, qui n'a rien à voir avec le cinéma à ce moment-là, mais de dire « Ah, si ça, mais ça n'a pas avec une autre forme d'art, là, qui est plus théâtrale, et de prendre... de mon bagage, puis de mettre ça dans le jeu, puis là, c'est un exemple. Est-ce qu'un jour, je vais faire vraiment un jeu? J'en ai fait. Si tu regardes Donald Duck, c'est beaucoup moins cinématographique que ce que j'ai... Puis c'est pour ça, Donald Duck, je dis que c'est mon jeu 2D. C'est mon jeu où j'ai appris juste à faire un jeu vidéo. Il y a vraiment très peu de moments cinématographiques dans Donald Duck, sauf les power-ups. C'est le seul moment. Sands of Time... c'est aussi très cinématographique. Mm-hmm. Et Assassin, c'est un mix un peu des deux. Parce qu'il y a des moments, je dirais que lorsque tu joues juste dans la foule, c'est un peu moins cinématographique que le combat. Le combat, c'est toujours un beau moment parce que c'est déjà c'est plutôt saccadé un moment de combat dans un jeu. C'est plus facile de faire des coupures de caméra, de placer ta caméra. Dans la foule, on avait un petit peu plus de difficultés. Quoique, après, c'est des... Moi, j'utilise le cinéma comme outil de communication à l'intérieur d'un jeu. Par exemple, lorsque tu peux bloquer sur un personnage, ben c'est intéressant à ce moment-là de baisser un peu la caméra, de changer la focale et de mettre du flou. Ça dit au joueur, tu es effectivement bloqué sur ce personnage-là. Donc, c'est vraiment juste utiliser la grammaire d'un autre médium à l'intérieur d'un jeu vidéo. Mais c'est la même chose pour le son. On va travailler autant sur le son... Que seulement la caméra. Les animations, on utilise les arts martiaux, par exemple, pour le combat. Et c'est vraiment... Et le jeu vidéo, c'est le vrai, vrai médium multimédia.
Moi, je t'avouerais que ma question, en fait, est à double sens. Tout simplement parce que j'ai l'impression que les jeux vidéo ont beaucoup emprunté au cinéma, puis qu'à l'heure actuelle, on est comme au moment où peut-être vont pouvoir peut-être s'écarter du film. Parce que c'est un plus gros marché, parce qu'ils ont réussi à trouver une indépendance quelque part.
Ben, tu sais, le cinéma, au départ, dans l'histoire, ça répétait beaucoup le théâtre. On filmait des pièces. Et maintenant, on s'est rendu compte que non, il y a un langage. Et le jeu vidéo, c'est à mon âge, ça a 33 ans et des poussières. Et donc, c'est excessivement jeune. C'est vraiment, vraiment comme si on était en 1927-28. Et on va dire 29, le son est arrivé, puis on a quand même... Mais on est encore en train d'apprendre la grammaire et la syntaxe du jeu. L'Assassin, ce que moi j'ai trouvé intéressant par rapport à d'autres jeux que j'ai faits et qui se font, c'est qu'effectivement, au final, tout au long de l'expérience, là, tu peux appuyer sur les boutons et continuer l'interactivité. Ce que tu ne peux pas faire dans un film ou lorsque tu vas au musée, ou même que tu vas au théâtre, même si j'ai eu la chance de rencontrer Dieudonné, et on a passé quelques temps ensemble, et parce qu'il s'intéresse au jeu, il voit qu'il y a quelque chose qui se passe, et il m'a dit aussi, puis c'est vrai, quand tu es dans une salle, il y a un petit peu cette notion d'interactivité. Et c'est peut-être aussi beaucoup ça pourquoi j'aime le jeu, c'est que j'ai fait du théâtre énormément, là on parle cégep, université, et j'ai fait du cinéma, puis là soudainement j'ai les deux. Parce que c'est vrai, j'ai fait de l'impro je sais pas combien d'années, j'ai été arbitre dans une ligue d'impro pendant au moins 4 ans. J'ai pas manqué un dimanche, ça s'appelait la ligue des cravates, parce que plusieurs... non mais il y a des gens qui sont... Laurent Paquin par exemple a participé à la ligue des cravates. Entre autres, il y en a quelques-uns qui sont maintenant... Toutes les Serges, par exemple, la publicité de Molson, les Serges, tous des anciens des cravates, ça, ces gars-là. Anyway, mais là, c'est ce côté joute, oratoire, devant public, et l'interaction entre les deux. Puis en jeu vidéo, je retrouve ça. Mais en plus, c'est visuel. En plus, c'est auditif et tout ça. Puis moi, c'est... Je ne retournerai pas faire autre chose qu'un jeu vidéo, sauf, puis ça, je l'ai déjà dit aussi, l'écriture. Si j'avais autre chose à faire, ça serait
scénarisation.
Ou roman. C'est juste le côté du jeu vidéo qui, moi, des fois, que je trouve lourd, c'est qu'effectivement, on fait des projets à 100, 150 personnes, et c'est toujours, toujours avec des gens, et c'est le côté créatif pour soi, seul aussi, des fois, qui, des fois, me manque. On dit, j'écris un roman, ou j'écris un scénario pour moi, pour comme... Puis, advienne que pour... Là, moi, je travaille dans une industrie, dans un bureau et tout ça. Des fois, j'aurais envie de revenir à quelque chose de plus solide.
Peut-être pour ta biographie.
Peut-être, mais je ne suis pas rendu là.
Dis-moi, est-ce qu'on te reconnaît dans la rue?
Non, on ne me reconnaît pas dans la rue. Ça, on me reconnaît quand je vais dans des événements. Quand je suis allé au show du PAX, puis ça, moi, j'ai trouvé... PAX, c'est le Penny Arcade Exhibition aux États-Unis. Ça, c'était au mois de fin août à Seattle. Et là, c'est une convention de joueurs. Puis pas juste de jeux vidéo. Mais il y a une grande portion, je dirais, 75% du show, c'est pour les jeux vidéo. Et là, il s'est passé quelque chose qui, moi, j'ai trouvé formidable. J'ai donné une conférence, comme j'ai fait aujourd'hui. Et il y a un jeune garçon d'environ 15-16 ans qui est venu me voir avec une copie de Sands of Time. Puis qui m'a demandé de la signer. Et moi, ça m'a sidéré parce que ça veut dire que ce gars-là, il est parti de chez lui, il a regardé son horaire dans la journée, il a dit « Ah, il va avoir Patrice Desilets, c'est celui qui a fait Sands of Time ». Il est allé dans sa collection de jeux, il a pris Sands of Time, il a fait attention de bien retirer sa copie de jeu, et ensuite il m'a réussi à me retrouver, il a demandé à la fille de PR Ubisoft « Est-ce que je peux demander un autographe à Monsieur Desilets ?» Et finalement, il m'a demandé un autographe. Et moi, je fais des jeux avec ma gang de chums à Montréal. Et c'est ça, là. C'est très, très... On fait ça entre nous, puis on... Tu sais, le cinéma, le monde, ils vont. Au théâtre, le monde, ils vont. Au musée, le monde, ils vont. Chez nous, pour nous, les gens, ils jouent chez eux. C'est pour ça que, socialement, je pense, les gens ne comprennent pas à quel point le jeu vidéo est fort actuellement. C'est que ça se passe à la maison. Tu vas au Future Shop, chez Best Buy ou Microplay, tu prends ta copie, ça dure 2 minutes, tu reviens à la maison, et là, t'en as pour 25-35 heures, les gens savent même pas ce que tu fais, et il y a 6 millions de personnes qui ont joué Assassin comme ça. Et donc, socialement, les gens qui ont...
Mais dis-moi, moi, je suis allé à Arcadia quand même, et puis je l'ai vu, moi, la file de personnes qui étaient avec leur petit poster dans la main, puis qui étaient là toutes tremblant à l'idée de te voir et puis de te faire signer leur poster. C'est quand même tout un phénomène.
Oui, ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre exemple, effectivement. Puis moi, je me trouve choyé. Je l'ai dit tantôt dans la conférence. Hein. Moi, je suis avec Jade sur Assassin, mais aussi avec Yanis, par exemple, sur Sands of Time. On met ça. c'est important de mettre des visages pour les gens, plus ça va. Pour que, en fait, les gens... Tu sais, au final, c'est un jeu où Ubisoft, c'est très bien, mais ça reste un produit. Puis les gens ne demandent pas des autographes à des produits, ils ne s'attachent pas aussi facilement à des produits. Je veux dire, du détergent tête, c'est un produit. Puis... Et là, le jeu est en train de réaliser que ben, y a des gens, ces gens-là sont intéressants, on peut leur parler. Et oui, le star system est en train de s'implémenter à l'intérieur des jeux vidéo. C'est tout à fait normal, naturel. C'est pas ce que moi je recherche personnellement. C'est le fun. Moi, j'ai passé deux heures exceptionnelles à l'Arcadia à rencontrer ces gens-là. J'avais du plaisir avec eux. À la fin, j'étais vidé parce que c'est vraiment très demandant. Mais ça, c'est une partie, mais il y a toute l'autre partie du star system du jeu vidéo qui dit que j'ai vraiment passé des journées, moi aussi, dans une chambre d'hôtel, avoir passé des journalistes un après l'autre. Tu as 25 minutes avec un, il parle, un autre qui rentre, tu reposes les mêmes questions, puis tu réponds, puis hop, il repart. Et tu fais ça de 9h le matin à 6h le soir, non-stop. Puis à un moment donné, tu dis, je peux-tu aller à la toilette? Puis ils font, OK, vas-y. Puis là, tu reviens, puis ça continue. Puis c'est... Et ça, je l'ai vécu. J'ai fait des press tours. Je me suis promené partout sur la planète pour vendre le jeu. J'ai fait des conférences comme celle-ci, qui sont aussi un peu, surtout quand le jeu n'est pas sorti, un peu de... Tu fais vraiment de la vente, là. Mais moi, j'essaie. Puis ça, c'est mon truc. Au début, j'étais plus nerveux, là, au début de ma carrière. Ben, j'avais peur de ne pas dire les bonnes choses. Puis au final, à un moment donné, je réalisais que non, on s'en fout. Sois toi-même, parle, puis ça va aller tout seul. Fait que c'est ça mon style maintenant. C'est ce que je suis en train de faire un peu avec toi, là. Je suis Patrice Desilets, directeur créatif d'Assassin's Creed, et vous écoutez Puissance Maximale.
Et oui, on était avec justement Patrice Desilets qui nous a fait gentiment une entrevue pour nous parler d'Assassin's Creed, sorti chez Ubisoft Montréal. Puis évidemment, tout de suite, immédiatement, nous allons lancer le générique qui annonce l'œil du jugement, c'est-à-dire Vincent Langlois. The Eye of Judgment. I can't remember my name or my past. It's all gone. Look out! The wind is breaking apart! Do you know me? I'd say you're suffering from amnesia brought on by the crash. Everything that happens, happens for a reason. I'm gonna kill you. I gotta figure out who the hell I am. I'm not just sitting around waiting for rescue. Pour tous ceux qui ont suivi eh bien, la télésérie, je sens que vous êtes tous à l'écoute et puis vous êtes en train de vous dire « Mais oui, je connais un petit peu tout ça ». Il s'agit en fait du téléroman « Lost », perdu en français, c'est-à-dire tous ceux qui l'ont adoré savent exactement de quoi on parle. Un avion s'est échoué ou en tout cas est venu s'écraser sur une île et on suit des protagonistes pendant toute une saison, voire même plus si affinité, à travers leur démêlé avec la jungle et leurs problèmes sentimentaux de feedback, parce qu'en fait, il y a énormément de retours en arrière de ce qu'ils ont vécu, avec beaucoup de problèmes psychologiques. Bonjour Vincent Langlois.
Bonjour Sébastien.
Donc toi, tu as essayé non pas la télésérie, mais on parle du jeu ici.
Et oui, j'ai essayé le jeu Lost, c'est Lost via Domus, qui est en fin de compte disponible sur la Xbox 360, sur le PS3 et également sur PC. En fin de compte, moi je l'ai essayé sur la console PS3. C'est un jeu qui est édité par Ubisoft et qui a été développé par Ubisoft Montréal. C'est classé T pour teenagers, en fin de compte, adolescents.
Ce Mon Dieu, mais joueur. Ubisoft Montréal est partout là, en ce moment, c'est incroyable.
Oui, on les voit quand même pas mal.
On les voit même beaucoup. Puis ben, je t'avouerai, est-ce que toi tu étais un fan de la série?
Je vais t'avouer que j'ai commencé à la regarder il n'y a pas si longtemps que ça, environ un mois.
Ok, et moi je vais t'avouer que je l'ai commencé cette semaine, en fait ce week-end grâce à toi.
D'accord.
Non, c'est pas du tout grâce à toi. Est-ce que on va faire juste un rapide tour de table? Est-ce que vous la suivez, la série Lost?
Oui, moi j'ai écouté la série, la première série au complet. Puis là, je vais embarquer dans la deuxième, là, bien vite. Là.
Moi, je manque un peu de temps, en fait, pour la suivre. Ben, pour la commencer ou pour la suivre, donc.
Mon Dieu, c'est ça, les femmes actives à l'heure actuelle, ça n'a plus de temps pour rien. Et puis toi,
moi,
David, est-ce
moi,
que
j'ai adoré la saison 1 et la saison 2, mais malheureusement, je me suis perdu dans la saison 3. J'ai trouvé que ça
se dirigeait
un peu partout, là. Fait que je ne le suis plus.
Donc finalement, on a tous affaire à des fans. Puis est-ce que le jeu est à la hauteur du téléroman?
En fin de compte, le jeu est intéressant en soi. En fin de compte, je vais te donner quelques points pour mes commentaires. On va parler de l'histoire, on va parler des effets visuels et de l'ambiance du jeu. On va parler également de la jouabilité et de la durée du jeu. Commençons avec l'histoire. Bon, tout le monde connaît ici l'histoire de Lost, des passagers d'un avion. L'avion s'écrase sur une île, les passagers sont ensemble, ne se connaissent pas, doivent apprendre à vivre ensemble, à découvrir qui ils sont, être certains de pouvoir se confier à des gens, être en confiance avec ces gens-là. Et nous, ce qu'on fait là-dedans, en fin de compte, on est un personnage extra à la série.
Qui n'existe pas dans la série.
Qui n'existait pas. Son nom, c'est Elliot Maslow, qu'on apprend notre nom plus tard. Sauf qu'au début, on est amnésique, qu'on ne sait pas ce qu'on fait là, on ne comprend pas. C'est un peu comme on a entendu dans le thème du début. Mm-hmm. Et donc, après le crash, bien sûr, on est devenu amnésique.
Mais on retrouve tout le monde. On retrouve Jack, Sawyer.
On retrouve les personnages de la série, Jack, Sawyer, Locke, Kate. Tout le monde est là. Tout le monde est là à sa façon, vraiment le même style de personnage qu'on a dans la série. Et on les rencontre. Le but, en fin de compte, du jeu, c'est de découvrir qui on est, nous, comme personnage. Et bien sûr, peut-être de sortir de l'île également. Et on doit parler justement à ces personnages-là, des personnages principaux de la série.
C'est philosophique finalement, on essaie de découvrir qui on est.
Tout à fait.
Et c'est beau, c'est tellement beau.
Et c'est en faisant des mini-quêtes qu'on va réussir à trouver qui on est. Mini-quêtes sur la plage, dans la jungle, dans les grottes. Donc l'environnement, l'histoire, c'est quand même assez bien. C'est une autre façon de voir les séries télévisées parce que le jeu touche aux séries 1, 2 et une partie des 3 dans les personnages. Et c'est une autre façon de voir la série, donc d'un autre œil, un œil d'un personnage qui n'existe pas.
Est-ce qu'un côté graphique, là, c'est assez représentatif de la série elle-même, l'île, les personnages, ça représente assez bien ça?
C'est ça, oui. Les personnages sont très bien faits au niveau graphique. Puis c'est certain qu'il y a quelques personnages qu'on reconnaît, bon, on reconnaît bien. Il y en a que c'est plus évident que d'autres, comme Locke, celui qui n'a pas de cheveux, ben c'est clair qu'il est plus facile à identifier.
Est-ce qu'on voit un œil en gros plan à chacun des différents types de changements de prise de vue? Parce que c'est vraiment un des gros classiques de la série, ça. Commencer par un œil.
On voit l'œil de notre personnage, oui, qui s'ouvre et on voit l'iris et tout ça. Mais en fin de compte, tu me fais penser que ce jeu-là se joue en chapitres. Chaque chapitre représente comme un épisode de la série. Donc, c'est vraiment comme si on regardait les épisodes de la série. Ça commence avec, bon, qu'est-ce qui s'est passé dans un dernier épisode? Mm-hmm. Puis là, on voit un peu ce qu'on a fait dans le jeu. Ensuite, bon, un petit 30 secondes de ce qui va se passer, le thème de Lost, et après ça, on commence à jouer. Donc, chaque chapitre est comme un épisode. C'est quand même bien. Pour ce qui est de l'histoire, moi, je donne un 8 sur 10.
C'est quand même... Mais ça, c'est parce que t'es un fan.
Je suis un fan des séries télévisées. Lost, je commence à devenir un fan. L'histoire, je l'ai trouvée intéressante parce qu'on la voit de façon qu'on ne la voit pas dans la série. Donc, de par les yeux d'un personnage qui n'existe pas.
D'accord.
C'est pour ça que je donne un 10. C'est quand même intéressant. Pour ce qui est des effets visuels, l'ambiance, c'est bien. Tu me demandais si ça représente pas mal ce qu'on voit sur l'île. Oui, les personnages sont semblables. L'île, c'est bien fait. Les textures, la luminosité, les ombres, c'est quand même bien fait pour les effets visuels. La musique qui suit vraiment la musique de l'histoire, en fin de compte, la musique de Lost qui est toujours omniprésente. Et également, il y a la musique aussi qui est faite en fonction des scènes. Bon, musique dramatique quand on doit être stressé un peu, musique un petit peu plus relaxe quand on fait une enquête.
Ça peut ressembler à quel genre de jeu qui est déjà sur le marché?
C'est un jeu d'aventure, je te dirais. Ben, c'est vraiment pas évident. On pourrait le penser peut-être à Drake, Uncharted Drake, mais c'est vraiment pas pareil, là. C'est un jeu de quête qui est assez différent des autres parce que premièrement basé sur une aventure qui existe déjà. C'est un jeu d'aventure, tout simplement.
OK, c'est bon.
Et pour ce qui est des effets visuels, l'ambiance, moi, je donne un 8 sur 10 là-dessus aussi, sur ce point-là.
En fait, finalement, si je comprends bien, tout ce qui est enveloppe, c'est bon.
Oui.
Et là, on va rentrer dans la jouabilité, dans ce qui fait un peu la particularité des jeux. Est-ce que ça, c'est aussi winner?
Bien, pour ce qui est de la jouabilité, bien sûr, bon, je l'ai joué avec la PS3, donc la manette de PS3, les sticks analogiques, les boutons, ce qui est quand même bien. Je veux dire, c'est un jeu standard. Le stick de gauche pour faire avancer ton personnage, celui de droite pour vérifier à gauche, à droite ce qui se passe, les boutons pour prendre des objets, ça va très bien. Les déplacements sont bien. Il y a des puzzles qu'on doit, des petits casse-têtes qu'on doit énumérer. Enfin, qu'on peut énumérer. Mais
est-ce que ça ressemble à un first-person shooter? Est-ce que tu es dans la peau du personnage?
C'est un third, un troisième.
Ah, okay,
donc, on voit notre personnage au complet.
Okay, d'accord.
On le voit courir, il est devant nous, devant l'écran.
Et est-ce que tu as de la liberté pour te balader un petit peu dans la forêt?
Ben, c'est un peu ça qui est plate un peu avec le jeu, c'est qu'il y a plein de murs invisibles. Bien sûr, c'est important qu'il y en ait. Les murs invisibles, vous savez que c'est lorsqu'un personnage arrête d'avancer dans le jeu, mm-hmm. on est au bout de la plage, puis on peut pas aller plus loin, ou on est en plein milieu de la jungle, et on peut pas tourner à droite, on doit vraiment suivre le chemin. C'est un jeu qui est vraiment tracé.
Donc, finalement, un jeu très linéaire.
Linéaire, oui. La jungle offre parfois quelques petits endroits pour se perdre, mais c'est pas assez grand pour dire qu'on a vraiment du fun. Donc, c'est ce qui est un petit peu... ennuyant avec le jeu, le fait que ce soit un petit peu linéaire et qu'il y ait ces murs invisibles-là. Les dialogues avec les personnages, parce qu'on doit enquêter, parler avec les personnages principaux, c'est un peu court. Il y a une répétition dans la jouabilité, dans le jeu, en fin de compte, c'est qu'on passe toujours de la jungle à la plage, ensuite de la plage à la jungle. C'est toujours le même chemin qu'on fait.
Est-ce qu'au niveau des quêtes, là, est-ce que c'est très linéaire aussi ou bien les quêtes peuvent être mélangées ici et là?
Bien, en fin de compte, c'est linéaire. C'est un peu ça. Dans un sens, on doit aller retrouver, par exemple, un personnage, disons Jack, qui est en plein milieu de la jungle en train de faire une recherche, mais c'est à lui que tu dois absolument parler. Toi, okay. tu es sur la plage, donc tu dois te rendre en plein milieu de la jungle pour aller lui parler et avoir quelques indices pour savoir ce qui se passe. Après ça, Jack peut dire, mais là, tu dois retourner voir Claire sur la plage. Donc, tu refais la jungle, tu retournes sur la plage. Okay. Donc, c'est linéaire dans ce sens-là. Ça devient un peu ennuyant à la longue.
Est-ce qu'on fait de l'expérience dans ce jeu-là?
De l'expérience.
C'est le rôliste qui parle, le RPG. C'est vraiment ça. Est-ce qu'on accumule des petits...
Ah, les fameux points d'expérience. Ouais, oui, tout. Non. La seule chose qu'on accumule, c'est des objets qu'on met dans notre sax à dos. Mais il n'y a vraiment pas de points d'XP ou quoi que ce soit qui monte et qui fait que ton bonhomme est de plus en plus intelligent ou fort le long du jeu.
Mais j'ai l'impression que tu nous donnes un jeu qui s'adresserait plus peut-être aux jeunes adolescents, là, les nouveaux gamers, si on veut.
Non, moi, je pense qu'on s'adresse surtout aux grands fans de la série.
Je pense que c'est un jeu vraiment pour les fans. Moi,
si le jeu est si linéaire que ça, parce que c'est pas...
Ben, y a des gens quand même qui sont des bons gamers puis qui s'amusent malgré tout avec des jeux qui sont linéaires. Alors, quand je dis linéaire, c'est certain que c'est pas nécessairement tout en long, puis on peut pas aller à gauche ou à droite, mais on est tellement habitué maintenant. On entendait tout à l'heure Assassin's Creed dans le topo.
Où justement, on a toute la liberté possible. Un jeu où on peut aller partout. C'est ça qui est
fou. On est tellement habitué maintenant, c'est un peu à ce qu'on s'attend. Mais j'imagine que c'est vrai pour un jeu comme Lost, dans lequel on pourrait faire n'importe quoi sur une île. On doit être... en fin de compte, on doit avoir certaines contraintes.
Donc très rapidement, qu'est-ce que tu ferais comme retour sur ce jeu-là pour le présenter très rapidement?
Ben, en fin de compte, c'est un jeu d'aventure, tout simplement. On est un personnage, et un personnage qui est fictif. Le but, c'est de retrouver notre identité, s'aventurer dans l'île, essayer de trouver les indices qui vont nous aider à réussir à trouver qui on est. Et petit point, juste en terminant, la durée du jeu. C'est
extrêmement court.
6 à 7 heures environ. Ce qui, selon moi, pour un jeu de 59,99, là, ça n'a pas sa place.
Ouais, mais en fait, moi, je t'avouerais que j'ai complètement le point de vue inverse. C'est-à-dire que je suis un petit peu tanné des jeux qui durent des quarantaines d'heures. Donc, tu peux même plus voir ta blonde. Les blondes sont plutôt contentes.
Mais moi, je me dis, tant qu'investir un bon 50-60 $, c'est le fun d'avoir quelque chose comme un 12 à 15 heures. Ouais. Au moins 12 à 15, on serait heureux.
Puis ta note finale pour le jeu?
Ma note finale, un 7 sur 10.
Oui, mon Dieu, tu descends en dessous de la barre des 8 pour la première fois, mais que se passe-t-il? C'était vraiment pas un bon jeu.
Ben, en fin de compte, ça n'avait pas été du temps, peut-être que ça aurait été un petit peu plus haut, mais un jeu de 6 à 7 heures, pour moi, ce n'est pas un jeu qui mérite la peine d'être acheté.
Et merci beaucoup, Vincent. Tu restes avec nous, j'imagine, pour la suite de l'émission. Puis,
Tout à fait.
En fait, sans quasiment aucune transition, on va passer directement à David. Bonjour, David Claveau.
Ben, bonjour, bonjour.
David, toi, tu vas nous parler justement d'un phénomène.
Oui, c'est un marché encore sous forme embryonnaire, mais qui va commencer à émerger très rapidement dans ces prochaines années avec l'arrivée de la nouvelle technologie. Lors de ma dernière chronique, je vous avais parlé des différents créneaux de marché dans les jeux vidéo. Je vous avais parlé que souvent, les développeurs créaient des jeux pour des adolescents, des jeunes enfants, des adultes, des personnes âgées et même pour les femmes. Mais maintenant, c'est rendu que le nouveau créneau de marché vise les organisations. Les entreprises. Donc, pendant que certains individus ou certaines organisations utilisent les jeux pour s'amuser, d'autres s'en servent pour former leurs employés. Donc, par exemple...
En fait, finalement, ils utilisent tout le côté ludique pour essayer de donner un petit coup de punch à la formation des jeunes cadres, c'est
ça? Oui, exactement. Donc, il y a une entreprise française qui a créé Attendez, je vais retrouver le nom
d'entreprise. Est-ce qu'on utilise Mario Bros pour vous expliquer tous les attraits de la finance? J'imagine tout à fait Mario Bros avec sa petite casquette t'expliquant les
Oui, ben, en fait, c'est un genre de Mario Bros sans moustache, là. Donc, c'est ton double de toi-même qui est sous forme 3D. Donc, on utilise tant l'intelligence artificielle que la technologie 3 dimensions. Donc, l'entreprise CFR, par exemple, lui applique la 3D pour former les employés à diriger un meeting. Donc, toi, en tant que gestionnaire, manager, tu dois gérer, mettons, 20 employés, mais tu ne sais pas comment s'adresser aux employés, puis le jeu offre cette pratique-là. Donc,
c'est génial. En fait, t'as des faux personnages oui. qui sont là devant toi, puis qui essayent de t'écouter, puis ils vont interagir avec
toi. Ils interagissent avec toi. Donc, tu as une intelligence artificielle. Dépendamment de les phrases que tu vas leur dire, ils vont réagir de manière différente. Donc, tu peux avoir une réaction corporelle que là, tu dis « Oh boy, je suis en train de perdre de mes employés ou la situation. »
Puis,
donc,
j'imagine qu'il doit être tout en subtilité. Là, il s'agit quand même de choses artificielles.
Oui, bien sûr. J'imagine que ça doit être quand même assez limité au niveau de l'intelligence. Mais c'est là qui est magnifique parce qu'avec la technologie, éventuellement, ça va être totalement imprévisible, la réaction des gens. Là, c'est un peu prévisible. Tu sais, tu peux dire, bon, si je vais leur dire telle phrase, telle séquence, ils vont réagir probablement de telle manière.
Mm-hmm. Est-ce que tu as vu, toi, des animations sur ce type de jeu-là?
Malheureusement, j'ai pas vu d'animation de ce genre. Donc, c'est tout nouveau, tout frais. C'est okay. des organisations relativement riches qui peuvent se permettre cette technologie-là pour le moment. Ou des organisations gouvernementales. Par exemple, il y a des programmes qui existent pour la gestion de crise. Dont les Américains en ont vraisemblablement besoin. Donc, au lieu de payer des millions et des millions de dollars pour faire une pratique réelle, en temps réel, puis mobiliser une ville entière pour simuler cette gestion de crise-là, ben, on peut le faire de manière virtuelle. Donc, bien sûr, il faut avoir une création de base de données véridiques. Par exemple, pour les pompiers, il faut calculer les jets d'eau, la durée de jets d'eau, calculer le potentiel du feu, du développement. Donc, pour le moment, on est vraiment rendu sur la création de bases de données pour que, de manière virtuelle, on puisse représenter ça de manière le plus réelle possible.
D'accord. Puis ça va permettre, en fait, de limiter les problèmes quand va arriver la crise, c'est
Exactement.
Ça? Mais est-ce que c'est déjà utilisé ou alors tu es en train de nous parler de technologies qui sont en train de se mettre en place?
C'est évident que c'est déjà utilisé, surtout au niveau de l'armée. Donc, l'armée qui a énormément d'argent et de budget peuvent utiliser ce genre de technologie-là actuellement.
Mm-hmm.
Sinon, comme je vous dis, c'est des organisations riches. Donc, c'est sûr que la technologie est en train de se mettre en place pour éventuellement qu'on puisse en servir davantage.
Donc, tout le monde ne peut pas y avoir accès. C'est juste ceux qui payent.
Exactement.
Mais c'est toujours comme ça.
Mais quand tu dis riche, ça environ combien?
Un système comme cela, ça peut coûter très, très cher, de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc,
oui, oui, oui.
Puis est-ce que ça marche sur la Wii?
Ben, oui, justement, la Wii peut servir de cette technologie-là, tout comme la PS3. D'ailleurs, la PS3, dans le milieu de la médecine, il y a un programme qui est utilisé, qui tient en considération, en fait, qui est très efficace au niveau de calcul avec tous les utilisateurs de PS3. Le programme peut calculer très, très, très rapidement, jusqu'à 20 fois plus rapidement qu'un système d'ordinateur Pentium 4. Puis ça l'aide pour les chercheurs et les médecins de faire des études et des recherches sur le repliement des protéines. Donc, ça peut accélérer nos recherches sur les maladies telles que l'Alzheimer ou encore l'étude sur les cancers. Donc, oui, c'est assez puissant, ces machines-là, pour servir la science et les organisations.
En tout cas, c'est sûr que dans l'avenir, ça risque de devenir de plus en plus généralisé, j'imagine.
On l'espère bien, parce que si l'utilisation des outils technologiques peut permettre aux gens d'être plus brillants et plus efficaces dans une situation
surtout
réelle...
Surtout plus efficaces, c'est tellement important. Notre société en a besoin.
Exact.
Et merci beaucoup, David, pour ta chronique, c'était vraiment passionnant.
Ça me fait plaisir.
Juste le temps de vous rappeler que vous écoutez Puissance Maximale au micro. Sébastien Léonard, on est sur le 88.3, c'est-à-dire CKIA pour tous ceux qui peut-être seraient là parmi nous au hasard, ce qui arrive de temps en temps. Et puis après la petite pause musicale que je vous propose à tous, eh bien on va revenir pour une critique sur le jeu qu'on a présenté la semaine dernière. Il s'agit de Cosa Nostra, surtout restez avec nous. I'm gonna
Ici Francky.
N'oubliez pas, le jeu doit rester un jeu.
Puissance maximale.
FM.
Oui, justement, en parlant de Francky, c'était les créateurs que nous avons reçus la semaine dernière. Souvenez-vous, les créateurs du jeu Cosa Nostra. Et puis, bah, pour en parler, parce que ça nous prenait au moins un test pour pouvoir vous dire si ça vaut la peine ou pas, eh bien, on a justement notre testeuse qui est venue aujourd'hui. Bonjour.
Allô. Nous, en fait, comme on était en semaine de relâche, on s'est bien amusé. On a joué 5 fois en 4 jours, juste pour vous dire. Donc, c'est un jeu qui a vraiment une très bonne note dans notre cœur, et c'est vraiment, on voulait pas s'en départir, on l'a ramené aujourd'hui avec beaucoup de recul, disons.
Dis-moi, en commençant par le début, ça ressemble en gros à quoi, c'est quel type de jeu?
C'est un jeu de cartes, il y a aucun jeu sur table, donc pas de dés, pas de pions, rien de ça.
Mm-hmm.
C'est vraiment, on a des cartes dans nos mains.
On a de l'argent aussi. J'ai vu qu'il y avait un gros tas d'argent.
Oui, certain, on a de l'argent, puis c'est pas pire, ça commence à 10 000. Donc, il n'y a pas de petites coupures.
D'accord, ben c'est parfait. Ça, de toute façon, pour la mafia, ça ne fait que des grosses coupures. Exact. Puis là, il faut être le parrain des parrains.
Oui, c'est ça. Mais il faut être le parrain, mais il y a aussi un autre aspect. On peut jouer en subtilité et être... juste vouloir avoir de l'argent pour construire des immeubles, donc c'est ça. Parce que en fait, c'est quand on construit des immeubles qu'on est capable d'avoir qu'on gagne en fait la partie. Dès qu'on atteint le 1 million.
Est-ce que c'est un jeu de gestion qui serait plus associé au monde de la mafia, ça serait ça?
Oui, c'est un peu ça. Moi, en tout cas, je l'ai vu comme ça. C'est vraiment avoir le plus d'argent possible pour construire des immeubles et potentiellement devenir le parrain.
D'accord. C'est... Vous avez joué à combien quand vous faisiez vos tests?
Nous, on a joué à 4. On a vraiment fait tous les nombres à peu près. On a joué à 4 jusqu'à 7, je crois, le maximum qu'on a atteint. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est un jeu qui joue de 4 à 8.
D'accord. Donc c'est un jeu de toute façon social. Il y a beaucoup d'interactivité, oui. J'imagine. Ça doit fuser. Ça ressemble à quoi l'ambiance pendant le jeu?
On saillit, tout simplement. on n'a plus d'amis. Puis c'est spécial parce que, bon, moi et mon copain, on a joué ensemble et... un contre l'autre, c'est l'enfer, la dynamique que ça donnait, parce qu'on s'aimait plus du tout. Là, on dirait que les liens d'amitié qu'on a les plus proches des gens, c'est là que ça se dissout. Subtilement, on a de la rancune, en fait, envers un des autres.
Mais là, c'est juste une question d'avoir le plus d'argent possible, ou bien tu peux aussi tuer les autres?
On peut tuer les autres, on peut leur donner le baiser de la mort, et comme ça, tout le monde perd leur respect. Oh, okay. C'est vraiment... C'est dur sur l'ego puis le moral. Hein,
est-ce que vous êtes réconciliés, c'est bon?
Oui, c'est ça. Ben, nous autres, on est un couple qui communique beaucoup, donc après la partie, on
sait... Ça fait 2 jours que Kevin ne mange plus.
Oui, c'est ça. Il mange plus, puis écoutez, il dort à terre.
Sur le sofa.
Puis...
Oui,
c'est ça.
Super. C'est un jeu à conseiller, finalement, pour les couples qui...
Ah oui, vraiment. Hein,
vraiment?
Ceux qui sont... Ben, c'est pour les couples qui sont capables de communiquer après. D'accord. Pas pour les couples déjà qui auraient l'heure.
Mais dis-moi, si vous avez joué quand même 5 fois d'affilée, c'est que ce jeu est extraordinaire.
Oui.
C'est ça que je dois comprendre.
Oui, c'est vraiment super. Ah bon, puis je vous le conseille à tous, c'est 30 $, 29,99. C'est un jeu que je conseille vraiment beaucoup, ça serait bien placé. Il y a quelques points négatifs que je dois mentionner.
Ben vas-y, oui, on est là pour ça, vas-y, fonce.
Puis les cartes, c'est ce qui m'a le plus déçu, parce que les cartes sont vraiment très facilement pliables, la durabilité est inquiétante, en fait. Je crois qu'avoir joué peut-être une 20aine de fois, les cartes seraient devenues toutes molles.
Surtout si t'as juste des gens enragés qui sont en train de jouer avec ces cartes-là.
Oui, moi, je me fâche facilement dans les jeux, puis là, c'était douteux, la sensibilité de mes cartes après la texture.
Donc finalement, c'est la qualité du matériel qui laisse à désirer.
Oui, mais je sais que Kevin n'est pas d'accord avec moi.
Je suis pas d'accord. Le jeu coûterait bien plus que 29,99 si les cartes étaient bien faites, mieux faites, en fait.
Oui, mais en tout cas, moi, je sais que pour la qualité du jeu, ben en fait, pour le jeu en tant que tel, ça me dérangerait pas de payer jusqu'à 35, 36, 30, jusqu'à 40 même pour un jeu qui vaut la peine comme ça, là. Tu sais, au pire, plastifiez-les, là. Ça aurait de l'allure, non?
Ben, on peut le faire nous-mêmes, à la limite. On peut aller acheter des petites enveloppes plastiques et puis les faire plastifier nous-mêmes.
Oui, oui. Mais c'est
vrai
un jeu,
que ça gâche un peu.
Oui,
je suis d'accord. Mais sinon, finalement, dans l'ensemble, jouabilité, plaisir...
Super le fun. C'est sûr que s'il y avait une extension déjà là, ça serait super trippant. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait des personnalités féminines, parce qu'il y a 8 noms seulement masculins. C'est un jeu qui
macho,
joue...
c'est des
c'est
machos.
C'est ça, c'est un jeu qui joue facilement en roleplay, mais ces commentaires-là, en plus, je les ai eu, les commentaires d'avoir des cartes féminines, je les ai eu par des gars.
Ah
les
oui,
gars auraient aimé ça, que les filles aient des cartes filles.
C'est parce qu'en fait, les illustrations sont très belles. On
oui,
s'attendrait
vraiment
à voir des filles, peut-être, qui soient aussi bien illustrées. C'est toujours
exactement
agréable à regarder.
Il y a des marraines de la mafia, c'est là la question.
Ben, oui.
C'est ce qu'on se posait comme question.
C'est sûr qu'il y a des marraines de la... Au moins les femmes des parrains.
Et voilà.
En fait, on ne sait pas. c'est vraiment le fait. Femme, hein. Si tu avais à donner une cote sur ce jeu-là, tu donnerais combien à peu près?
Un gros 9 sur 10.
Eh mon Dieu. Ouais. T'es une joueuse de quoi d'habitude?
En fait, moi, je joue à peu près à tout ce qui peut jouer. J'adore les cartes. Fait qu'en partant, c'est un super bon jeu pour moi, la Dame de Pique. Je touche tout le monde. Mais non, sans farce, Monopoly jusqu'à risque, puis bon, un peu n'importe quoi.
Puis ça s'adresse à quel type de clientèle? Est-ce que tu penses que monsieur et madame tout le monde accepterait bien de se faire, je dirais pas, marcher sur les pieds par le parrain?
Regarde, mon père atteint bientôt le 50 ans, il a joué avec nous et il s'est fait autant de fun, sinon plus que nous.
Waouh, mais c'est génial.
Mais moi, je n'irais pas dire que c'est 13 ans et plus, je dirais peut-être plus 16 ans et plus pour que vraiment les règlements soient tous bien compris parce que ça ballotte des fois, c'est un peu compliqué.
D'accord. Donc finalement, juste pour rappeler, où est-ce qu'on peut se le fournir, ce jeu-là?
Présentement, il est disponible à Montréal surtout, il est accessible aussi par Internet. L'adresse, je me souviens plus bien. Là,
c'est Synergeux.
Synergeux, www.synergeux.com.
Oui, on les a reçus la semaine dernière. Oui. Ça serait un peu difficile pour nous de passer à côté, passer sous silence leur site Internet. Eh bien, merci beaucoup pour la critique. La critique, c'était vraiment très intéressant. Puis, comme à chaque semaine, on aime bien faire tirer des jeux, puis que celui-là, il a une cote de 9 sur 10, on va le faire tirer aujourd'hui. Comme ça va nous faire plaisir à tous. Je vous rappelle le numéro de téléphone. Il s'agit du 529-90-26, il faut être membre de CKIA. Puis c'est un jeu quand même qui vaut 30$.
Oui, ça vaut la peine.
Et en plus, il est excellent. Donc vous pourrez nous téléphoner tout à l'heure après que Kevin, qui s'en vient immédiatement, Kevin qui avait une très très importante nouvelle à nous annoncer.
Oui, je suis en train de monter.
J'ai l'impression que c'est Jésus qui va nous annoncer quelque chose.
La renaissance.
Si Jésus parle.
La résurrection.
Justement, c'est ça, je suis en train de monter un projet complètement capoté. Je suis en train de ramasser le plus de monde de Québec possible pour faire une espèce de mémo RPG comme World of Warcraft, mais réel dans la province de Québec au complet. Donc, je me cherche une multitude de joueurs pour faire une espèce de grandeur nature en temps réel, 24 heures sur 24, 365 jours par année.
Eh mon Dieu, c'est des no life, mais avec une vraie vie. Mais en fait, je sais pas comment on appellerait ça. Mais dis-moi, ça ressemble. Moi, j'ai lu ton communiqué de presse parce que je fais partie de la presse. Ouais, cool. Mais en fait, anyway, ce que j'ai lu là, ce que j'ai compris, c'est que finalement, c'est un killer, ce que tu nous proposes.
Exactement. C'est comme une espèce de jeu de faut tracer des gens, faut les retrouver un peu dans Québec au complet. Puis pour identifier les gens, ils vont avoir des petits cartons sur eux autres. Ça va marcher 365 jours par année.
Donc d'ici peu de temps, on va pouvoir voir des scènes extrêmement intéressantes dans le bus ou à l'Université Laval ou dans des lieux un petit peu cocasses où on va avoir des gens qui apparemment ont l'air tout à fait normaux, mais possèdent sur leur petite... au niveau de la ceinture, une petite carte. Puis là, cette carte-là pourra permettre de dire que oui, ils font partie du jeu.
Exactement.
Et ils pourraient tout simplement s'attaquer, mais de manière virtuelle.
Oui, ça va marcher avec des cartes, aucune violence, tout va se procéder dans la prudence et la sécurité.
Dans les années 80, c'était très fort, ça. Hein. Je t'avouerais qu'en Europe, en particulier à Paris, là, les killers faisaient rage, surtout dans les cités universitaires, et puis c'était très drôle. Mais ça a donné lieu, finalement, à des choses qui pouvaient parfois être un petit peu dérapant, mais bon, j'espère que ça ne sera pas le cas ici.
C'est ça, fait que ça va se passer dans l'univers de World of Darkness, là, le fameux vampire qu'on connaît, la mascarade. Donc, il ne faut pas dévoiler la mascarade. Ça va être une espèce de crime organisé, là, des sociétés de crime organisé, des chefs. Il va y avoir des vampires seniors qui vont donner des quêtes à leurs sous-traitants, dans le fond, pour faire les quêtes, tuer des gens, aller récupérer des trucs. Tout ça, dans le fond, dans le but de faire prospérer le seigneur vampire qui est au-dessus de nous autres. Puis dans le fond, c'est ça. On va marcher comme ça. Puis là, il faut ramasser le maximum de personnes au Québec pour faire un méga jeu.
Puis si on veut participer, on écrit où est-ce qu'on peut avoir de l'information?
KevinLab@hotmail.com. Kevin, juste des E et pas d'accent aigu. Et il est à veille d'avoir un site là-dessus, donc sur Puissance Maximale, je vais...
Il est à la veille d'avoir un site sur Kevin.
Oui, sur mon petit bébé que je suis en train de monter. Et c'est ça, je veux le plus de monde au Québec, ça va être complètement débile. Là.
Est-ce que pour l'instant, ça a commencé un petit peu à rentrer, les inscriptions?
Je te dis, j'ai lancé un premier message aujourd'hui, puis j'ai du monde qui a envoyé plein de messages.
Et par contre, je pense qu'il y a une petite inscription de 10$, c'est ça que j'ai lu.
Oui, c'est ça, 10$ par année.
Oui, mais est-ce que tu fais de l'argent avec ça?
Ben non, c'est complètement abus.
Bon, c'est tout ce que je voulais entendre.
Je fais juste du bénévolat.
C'est bien beau. Bon, ben c'est super. Merci beaucoup, Kevin, pour cette idée originale. C'est sûr que Puissance Maximale s'associe à ce mouvement-là, hein, les gars?
Tout à fait.
Tout à fait. Et mademoiselle?
Ben, je suis bien obligée avec le chum que j'ai. Faut bien que je m'associe.
Ah, la dure vie.
Ah oui.
En tout cas, ben, merci beaucoup, Kevin, pour cette information-là. Nous, je tiens à rappeler en fait, qu'en fin de semaine, samedi le 29 mars, à l'Hôtel Pur, de 10h à 16h, il y a Ma carrière en jeu, qui fait partie en fait intégrante de la programmation du Festival des Trois Amériques, dans lequel vous allez retrouver tout ce qui se fait de compagnies de jeux vidéo de Québec, qui vont vous présenter autant ce qu'ils font que ce qu'il pourrait y avoir comme accès à une carrière possible pour les jeunes ou même pour les parents, par exemple, pour se faire une idée. Et évidemment, il y a plein de jeux qui sont présentés, plein de consoles que vous allez pouvoir essayer. C'est autant quelque chose de ludique que quelque chose qui va vous permettre d'avoir un petit aperçu de ce qui se passe. Puis, très récemment, je viens d'apprendre, et puis ça c'est une grande nouvelle, que vendredi au Cercle, toujours un petit peu dans le même cadre, il y a un concours de Rock Band.
Oh yeah! Ouais.
Merci, parce que là je trouvais que ça manquait un petit peu d'ambiance.
On va rocker!
Qui n'aime pas Rock Band? C'est sûr et certain qu'on va être présent. C'est vendredi le 28 mars, c'est à 17h, c'est au Cercle et c'est entrée libre. Évidemment, il faut venir un maximum possible
puis
habillé.
Moi, je vous mets au défi de concurrencer l'équipe de PM parce que nous autres, on va être là, puis on va être là en force.
C'est clair, c'est une certitude avec nos jeans string Mulburn et puis nos petits pantalons qui font
nos coupes Longueuil.
Exact. En tout cas, il faut aussi avoir du style, ne l'oubliez pas. Donc, tout est noté. On note autant la performance au niveau de la notation, mais aussi le style et tout le air. Le air guitar, mais avec une vraie guitare de Rock Band, évidemment. En tout cas, c'est un rendez-vous en ce qui nous concerne. Puis, bien, toujours dans la même lignée, puisqu'on parlait de Ma carrière est en jeu, on est allé voir Binox, et en particulier leur représentante des mots m'échappent, de la main d'œuvre, c'est ça, qui nous a fait une petite entrevue dans ce cadre-là que je vous laisse immédiatement à écouter. Comme ça, on va pouvoir se quitter en plus là-dessus, puisqu'il est déjà 54, le temps de passer cette entrevue. Et puis, on vous souhaite évidemment une très bonne semaine. Vous pouvez nous rejoindre un petit peu plus tard dans la semaine au www.petitpeuple.fr si vous avez envie de nous écouter en stream. Et non en string. Ça, c'est la grosse joke. À chaque fois, ça fait toujours sourire tout le monde. Et évidemment, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi à 17h sur les ondes de CKIA à Québec. On vous aime ben gros. On vous souhaite une joyeuse Pâques. Et surtout, n'hésitez pas à jouer, entre autres à Cosa Nostra.
Oui.
Qui est un excellent jeu. Ou alors même à Lost, qui est un petit peu moins bon.
Vous pouvez toujours jouer.
Allez, salut. On se laisse sur l'entrevue qu'on avait avec Binox. Puis bonne semaine à tous.
Moi, je suis Véronique Lessard, je suis conseillère en recrutement chez Binox à Québec.
Parfait. Là, aujourd'hui, on va peut-être axer un petit peu la conversation sur Ma carrière est en jeu.
Mm-hmm.
Puis évidemment, on va orienter ça sur Binox, parce que de toute façon, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, hein, quand même.
Parfait.
Puis dis-moi, quelles sont finalement les carrières qui sont proposées dans le milieu du jeu vidéo, et en particulier à Binox?
OK, donc présentement, il y a une explosion au niveau là des postes en conception de jeu à Québec. Donc en termes de postes, il y a autant des postes artistiques que des postes en programmation ou en production. Donc, on peut, par exemple, avoir des gens qui vont avoir des formations en 3D, donc les artistes qui vont modéliser tous les modèles en 3D, qui vont les texturer aussi, donc qui vont appliquer les textures. On cherche aussi des illustrateurs, donc les gens qui vont faire des dessins. Donc, les gens qui font du 3D partent toujours à partir des dessins des illustrateurs. En programmation, il y a plusieurs types de programmeurs, donc on a des programmeurs au niveau de la technologie qui vont développer toute la technologie qu'on a ici à l'interne, puis qui vont programmer aussi tous les comportements qu'il y a dans le jeu. Donc, on a différents types de programmeurs. Ça aussi, ça va être des gens qui vont arriver des decks, des bacs, des maîtrises. Donc, ça va être vraiment là des gens avec tout niveau de formation. Puis, bien sûr, il y a toujours les gens qui gravitent autour de ça, les ressources humaines, les producteurs associés. Donc, il y a plein de gens aussi là qui sont associés à ça. On cherche aussi beaucoup de testeurs. Ça prend pas nécessairement de formation, mais ça prend des gamers qui ont beaucoup là de passion et d'intérêt là pour le jeu.
Dis-moi, là, je regardais tout à l'heure les gens qui passaient dans les couloirs. C'est quand même beaucoup des très jeunes personnes. La moyenne d'âge avait l'air très jeune, en tout cas ceux que j'ai vus, beaucoup de gens avec des calottes et beaucoup d'hommes. Est-ce que c'est réaliste?
Oui, c'est très réaliste. Donc, chez Binox, présentement, nous, on est 150 employés, il y a 10 filles seulement. Donc, oui, c'est un domaine, là, beaucoup de garçons. Puis, en termes de moyenne d'âge, nous, ici, la moyenne d'âge, c'est 26 ans. Fait que oui, il y a des gens très, très jeunes. Je pense que notre plus jeune a 19 ans, donc 19 ans, puis notre plus vieux a 42 ans. Donc, il y a des gens qui font monter la moyenne, mais vraiment, là, la moyenne d'âge est très basse, là, présentement.
Dis-moi, si tu devais convaincre du monde de venir chez Binox, qu'est-ce que tu leur dirais?
Je leur dirais qu'on est le meilleur studio de développement à Québec, qu'on est en expansion constante, donc on a plusieurs postes à créer. L'ambiance ici est super familiale et vraiment géniale. On a un président qui reflète exactement ce qu'est l'entreprise. Donc, l'entreprise est parfaitement à son image, donc jeune, dynamique. Les gens ici, ça bouge beaucoup, donc on promouvoit aussi beaucoup la mobilité à l'interne. Donc, on veut donner toutes les capacités aux gens, toutes les pour qu'ils puissent là, se développer. Donc, il y a beaucoup de potentiel ici, il y a beaucoup de talent. Donc, on travaille sur des jeux de nouvelle génération. Donc, on est le seul studio à Québec à développer sur PS3, sur Xbox 360. Donc, c'est des projets qui sont super intéressants. Puis, on a la chance là, d'avoir un gros joueur comme Activision là, qui est en arrière de nous. Donc, ça nous donne beaucoup de liquidité et énormément aussi là, l'accès à un portfolio qui est beaucoup plus là, étoffé.
Est-ce que c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre?
En termes de main-d'œuvre, présentement, je dirais qu'on... Au niveau de la programmation, c'est un petit peu plus difficile. Par contre, moi, j'ai tendance à dire que le jeu vidéo, c'est quand même plus sexy qu'une base de données. Donc, on a quand même de la facilité à aller chercher des programmeurs plus que souvent les gens, là, les entreprises autour de nous, par exemple. Ben, je n'aimerais pas de nom, mais dans le fond, plus les gens qui sont spécialisés en base de données ou ce genre de choses-là. Au niveau artistique, il y a énormément de talent. Il y a beaucoup de cohortes, donc beaucoup de programmes ici à Québec, aussi à Montréal. Donc, mais par contre, on a toute la main-d'œuvre ici là, à Québec pour s'assurer là, une relève qui est excellente. Là.
Est-ce que ça explique pourquoi il y a autant de compagnies qui développent des jeux ici à Québec?
Ben oui, présentement, là, il y a plusieurs compagnies justement qui sont en expansion. Oh. Donc, j'ai plusieurs noms en tête, comme Frima Studio. Nous, on est en expansion constante. Donc, oui, il y a tout le potentiel au niveau de la technologie puis au niveau artistique. Donc, c'est sûr que pour une compagnie qui veut développer des jeux vidéo, là, tout est là, là, tous les éléments sont là.
Donc, ça veut donc dire que finalement, si on veut venir te rencontrer, parce que tu vas être là sûrement au festival des 9e festival des trois Amériques, on a juste à venir.
Bien sûr. Donc, les gens ont juste à se présenter à l'Hôtel Pur le samedi 29 mars. Ça va être une super belle journée. Ils peuvent essayer des jeux, ils peuvent rencontrer des gens de l'industrie. Donc, même nous, on va avoir plusieurs employés sur place. Donc, ça va être, l'année passée, ça a été un succès. Cette année, ça va être probablement un plus grand succès encore parce qu'on est plus près. Donc, on va avoir, nous, plein de consoles de jeux. Ça va être super cool. Puis, il va y avoir des prix de présence. Donc, les gens qui veulent gagner des consoles, essayer des nouveaux jeux. Ça va être vraiment une belle journée. Puis, moi, je vais être sur place. Donc, les gens, là, qui cherchent des emplois, c'est certain que ça va être... Ça me fera un plaisir de les rencontrer.
Merci beaucoup.